Pierre Nora, un des grands noms de la nouvelle histoire, est surtout connu dans le public pour avoir dirigé chez Gallimard des ouvrages fameux consacrés aux lieux de mémoire. C'est justement la mémoire napoléonienne qu'il a choisi d'explorer dans ses différents niveaux.
Pierre Nora, on vous attend évidemment sur le sujet non seulement des lieux de mémoire, mais de la mémoire napoléonienne en général. Vous avez une approche qui est relativement nuancée des choses. Vous établissez plusieurs niveaux, plusieurs strates de mémoire en quelque sorte, concernant Napoléon.
Dans le cas de Napoléon, certainement, je pense que, bien qu'elle se recouvre, il faut quand même distinguer ce qui relève du mythe, du culte, de la légende et de la mémoire, je dirais, globale du phénomène. Le mythe, il a commencé avec Napoléon lui-même, qui en est l'artisan. Il commence avec l'Italie et il prend plusieurs formes successives.
Il était contemporain de l'épopée elle-même, en fait.
Exactement. On pourrait dire au moins que c'est celui du héros, de Charlemagne et du proscrit. Ça fait au moins trois figures différentes du mythe. Le culte, je dirais, c'est autre chose. C'est celui de la Grande Armée. Dans la mesure où la Grande Armée a représenté probablement la permanence révolutionnaire la plus profonde, c'est celui du petit caporal qui risquait sa vie. C'est aussi donc les comploteurs de la Restauration qui ont beaucoup fait pour le culte de Napoléon.
Donc les survivants de l'épopée elle-même.
Oui, et puis aussi les nationalistes révolutionnaires de 1830 qui criaient « Vive Napoléon !» Et puis c'est le culte, je dirais, le secret de la France rurale, elle qui a été pourtant décimée par Napoléon, qui les a ramenés dans les frontières de 89 et qui cependant entretient dans les chaumières le culte même de Napoléon. Donc bref, un bonapartisme sentimental qui appartient au culte.
La légende, c'est autre chose. Le culte,
la légende, c'est tout à fait autre chose. La légende, elle naît avec les 100 jours. Et elle commence par la légende noire du contre-Napoléon, qui est retournée brutalement par le mémorial, qui tombe dans une France de la Sainte Alliance, une France dominée par une Angleterre dont Napoléon a toujours été l'ennemi, ainsi que la France. Et c'est l'opération du mémorial elle-même, qui est très longue et sur laquelle il faudrait s'apesantir, qui a transformé l'image de l'empereur pour très longtemps. Et alors, puis, je crois, il y a le phénomène mémoriel dans son ensemble, qui n'est pas facile à peser et à juger, et qui est, encore une fois, profondément paradoxal, dans la mesure où Napoléon s'est présenté comme, au moins sous le consulat, et même après, dans le mémorial lui-même et dans les envolées finales du mémorial, comme le grand consolidateur des forces révolutionnaires en Europe.
Est-ce que c'est ce qui reste en
réalité ? Eh bien, moi, j'aurais tendance à penser que c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où il a surtout soudé cet acquis révolutionnaire avec probablement celui de l'Ancien Régime à travers sa personne, dans la mesure où il a toujours dit qu'il avait consolidé les intérêts de la Révolution, mais pas les théories. Autrement dit, le grand lyrisme napoléonien, il enracine beaucoup plus le phénomène napoléonien dans le retour vers la poésie d'une monarchie qu'il avait complètement perdu son prestige depuis au moins Varennes et largement
et même
avant,
sans doute avant,
et qui, par la guerre et par la gloire, retrouve quelque chose de sa tradition la plus profonde. En ce sens, il enracine, je dirais, la prose de la Révolution dans la poésie de la monarchie perdue.
Démonstration magistrale.